Il faut en finir avec l'esprit national polonais. Déclaration du tsar Nicolas Ier lors de la révolte polonaise de 1831.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Du milieu du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, la Pologne a connu bien des soubresauts et des tragédies. Illustration de ces soubresauts, ce furent les partages que la nation polonaise a connus entre 1772, année du premier partage, jusqu'en 1939, année du cinquième partage. Au travers donc de cette chronique, nous vous proposons de parcourir 2 siècles et demi environ d'histoire polonaise pour comprendre les grandeurs et les faiblesses de cette nation. Tout d'abord, il faut partir d'un constat. Quand en 1569, par l'union de Lublin, le royaume de Pologne et le grand-duché de Lituanie se concrétisent et s'organisent autour d'un seul et même État, la Pologne est alors à ce moment-là un vrai partenaire important en Europe, une grande puissance qui compte. D'ailleurs, le futur roi de France, Henri III, aura été entre 1572 et 1574 roi de Pologne. La Pologne de ce temps a d'ailleurs des ambitions importantes. Elle voudrait contrôler l'Ukraine. Elle va jusqu'à Moscou, puisqu'en 1612-1613, il y a une garnison polonaise à Moscou. Et n'oublions pas que lorsque les Ottomans mettent le siège devant Vienne en 1683, ce sont les troupes, essentiellement commandées par le roi de Pologne, Jan Sobieski, qui ont sauvé la capitale des Habsbourg. Donc, au XVIe siècle, au XVIIe, la Pologne a bien été une grande puissance de l'Europe. Pourtant, à partir du début du XVIIIe siècle, elle va entrer dans un processus de crise qui va expliquer les partages. Première explication de cette crise, ce sont des explications extérieures. Elle a dû subir une lourde défaite devant Charles XII de Suède. D'autre part, elle est entourée d'États qui, à partir du début du XVIIIe siècle, montent en puissance. C'est le cas de la Russie, à partir du règne de Pierre le Grand. Celui-ci veut moderniser l'Empire, l'ancrer dans l'histoire européenne, et il a finalement 2 ambitions. Faire reculer les Ottomans et dominer la Pologne. Il y a également la Prusse, qui, à partir de Frédéric Guillaume Ier et de son fils, qui lui succède en 1740, Frédéric II, dit le Grand, souhaite jouer un rôle important en Europe. Et le royaume de Prusse se trouve à l'ouest des frontières du royaume de Pologne. Et puis il y a même également le vieil empire des Habsbourg au sud de la Pologne, l'Autriche, qui à partir du XVIIIe siècle reprend une vigueur internationale que les guerres contre la France de Louis XIII et de Louis XIV avaient quelque peu mis un temps en sommeil. Donc, première difficulté, les voisins. Deuxième difficulté, c'est le système politique polonais. En effet, la monarchie polonaise n'est pas héréditaire. Le souverain est désigné par une élection royale et le corps électoral est composé de la noblesse polonaise. Le système a plutôt bien fonctionné jusqu'au début du XVIIIe siècle. Mais progressivement, la noblesse polonaise s'est divisée et elle est devenue finalement un instrument d'influence pour ses puissants voisins. On sait par exemple que en 1764, quand Stanislas Auguste Poniatowski devient roi de Pologne sous le nom de Stanislas II, c'est la Russie qui l'impose. C'est le gouvernement de la tsarine, Catherine la Grande, qui fait pression sur la diète de la noblesse polonaise pour désigner ce prince. Ce qui fait que, effectivement, le système royal polonais entre en crise. Le pouvoir est plus contesté qu'auparavant. Et donc, véritablement, si l'on ajoute aux questions internationales cette question de politique intérieure, la Pologne est indéniablement affaiblie au XVIIIe siècle. Alors arrive la question des partages. C'est qu'effectivement, à partir des années 1760, les puissants voisins de la Pologne veulent la réduire. Elle va subir, à la fin du XVIIIe siècle, trois partages. Le premier en 1772, le second en 1793, le troisième en 1795. Pour le premier et le troisième, ce sont les Russes, les Prussiens et les Autrichiens qui se sont entendus pour dépecer la Pologne. Celui de 1793 ne concerne que la Prusse et la Russie. Mais le résultat de ces divers partages, c'est que en 1795, il n'y a plus de Pologne indépendante. Il faut dire que l'État qui aurait pu aider la Pologne, qui aurait pu finalement essayer de contrer les ambitions des trois grandes puissances qui entourent la Pologne, la France, n'est pas en mesure de faire. En 1772, la monarchie de Louis XV proteste mais n'intervient guère lors du premier partage. Quant au partage de 1793-95, vous vous en doutez, nous sommes en pleine guerre révolutionnaire et la France a d'autres problèmes et d'autres difficultés que de s'occuper de la Pologne. Ainsi, la Pologne disparaît en 1795. Elle va reconnaître une nouvelle période d'indépendance ou de semi-indépendance grâce à Napoléon. Napoléon intervient dans les affaires de Pologne en 1807 et il va décider, après la paix avec la Russie, après le traité de Tilsit, de reformer une Pologne, certes beaucoup moins grande que la Pologne du XVIIe siècle, mais une Pologne qui tout de même a son indépendance sous protection française. Ce sera le Grand-Duché de Varsovie, et d'ailleurs, dans l'hymne polonais qui est encore aujourd'hui chanté, on fait allusion à ces patriotes qui ont soutenu la France et on fait allusion également à Napoléon Bonaparte qui lui a permis de reconnaître son indépendance. Mais la survie du Grand-Duché de Varsovie dépendait essentiellement de la puissance de Napoléon. Or, l'Empire napoléonien s'effondre entre 1813 et 1814, ce qui fait que le sort de la Pologne retourne dans les mains de ceux qui avaient partagé le pays au XVIIIe siècle. Lorsque se réunit le Congrès de Vienne, eh bien, les vainqueurs, Prusses, Autriche, Russie, n'ont aucune intention de maintenir une Pologne indépendante. Et effectivement, le Congrès de Vienne décide de faire un quatrième partage de la Pologne. Les deux tiers de la Pologne sont donnés au tsar Alexandre Ier, avec en particulier la ville de Varsovie. La Galicie, c'est-à-dire la province la plus au sud de la Pologne, avec la ville de Cracovie, est accordée à l'Empire des Habsbourg, même si la ville elle-même de Cracovie est considérée comme une république libre, mais qui sera finalement annexée à l'Empire autrichien en 1846. Quant à la partie ouest, la Poznanie, elle est accordée à la Prusse. Ce qui fait qu'il y a à nouveau absence d'un État polonais. Mais attention, s'il n'y a plus d'État polonais, il y a encore une nation polonaise. Et c'est ce qui est très important pour comprendre l'histoire polonaise du XIXe siècle. Effectivement, la Pologne continue à vivre d'abord par sa langue. Le polonais est toujours parlé. Il est évidemment la langue que les Polonais de tous les jours parlent. Il y a même une grande culture polonaise qui sera entre autres représentée par exemple par Chopin. ce qui fait que le sentiment national polonais perdure par sa culture. Il perdure également par sa religion, l'attachement au catholicisme. On ne comprend pas l'histoire nationale polonaise si on ne voit pas le lien fort qui, pendant longtemps, a lié le sentiment national polonais au catholicisme. Dans le cadre de l'Empire russe, orthodoxe, où souvent l'administration russe avait une volonté de russifier la Pologne, eh bien, le catholicisme a été un élément identitaire du peuple polonais. Les révoltes qui ont éclaté en 1831 et en 1863 sont des échecs, mais montrent tout de même qu'il y a une volonté polonaise de survivre. C'est donc à la fin de la Première Guerre mondiale que la Pologne a pu être reconstituée pour 20 ans, car effectivement, il va y avoir un cinquième partage de la Pologne. En 1939, le 23 août pour être précis, les Allemands et les Soviétiques, Hitler et Staline, vont se partager la Pologne, faisant de ce pays la première grande victime de la Seconde Guerre mondiale en Europe.